Bien, dernière partie de cette présentation de notre application Java EE, la partie interface web avec JSF. JSF est le dernier aboutissement en date de la longue histoire du support des frameworks web dans Java EE, qui a commencé en fait avant même que Java EE existe, puisque les premières versions de l'API Servlet date de 1998, c'est-à-dire antérieure à l'apparition de l'application Java Enterprise Edition. La première API, donc, c'est cette API Servlet. L'objet de l'API Servlet, c'est d'exposer un certain nombre de classes, de méthodes, de fonctionnalités à une application Java pour supporter le protocole HTTP, qui est évidemment le protocole du web. L'API Servlet est en fait un wrapper fin Java sur le protocole HTTP. Assez rapidement est arrivée la technologie Java Server Pages. Java Server Pages est complètement construite sur l'API Servlet. Il s'agit en fait d'écrire des documents HTML, des pages HTML standard, et d'ajouter à l'intérieur de ces pages HTML des scriptlets en Java, qui vont être ensuite interprétés par un compilateur particulier qui va générer une servlet elle-même exécutée dans un serveur d'application web tel que Tomcat. Les Java Server Pages ont subi beaucoup de modifications et d'évolutions depuis leur première version, mais l'idée est toujours là. On écrit du HTML. Dans ce code HTML, on ajoute des éléments dynamiques Java qui vont être ensuite transformés en servlets qui vont effectivement servir les requêtes HTTP. La première de ces évolutions a été l'apparition de ce que l'on a appelé les taglib. JSTL regroupe un certain nombre de ces taglib standards à l'intérieur d'une spécification. Et ces taglib sont utilisés dans des pages JSP pour interagir avec le code Java de notre application. Le dernier avatar de cette évolution, c'est la spécification Java Server Faces. Java Server Faces, de même que EJB, a subi énormément de modifications entre la version 1 et la version 2. Il s'agit d'un framework web construit sur la notion de composants. On écrit donc des composants HTML qui vont être associés à du code Java et communiqués automatiquement avec notre code applicatif. Aujourd'hui, JSF est une spécification Java EE. C'est la spécification qui permet de construire des applications web dynamiques sur la plateforme Java EE. Les travaux futurs de Java EE 8 vont ajouter à côté de JSF un autre framework web, un framework MVC, qui, là où JSF est construit sur la notion de composant, sera construit sur la notion d'action. La notion d'action est une notion déjà ancienne en web. Le framework Struts, au début des années 2000, était déjà construit sur cette notion. Mais on n'a pas de framework Java EE construit sur cette notion. Ça sera le cas à partir de Java EE 8. Pourquoi est-il intéressant de développer un framework sur cette notion d'action? Probablement parce que ce type de framework sera plus à même de communiquer avec des services REST que les frameworks de type composant comme JSF. Qu'est-ce que JSF permet de faire? Le premier service rendu est la construction d'applications web dynamiques qui s'intègrent dans la plateforme Java EE et qui donc vont pouvoir utiliser notre couche de service EJB, notre couche JPA pour accéder à la base de données, etc. Les pages JSF sont construites à partir de composants et à partir de templates. JSF intègre son propre moteur de templating. On peut convertir des valeurs saisies dans des formulaires HTML en Java automatiquement ou à l'aide de convertisseurs que l'on peut fournir. On peut également faire de la validation côté client en JavaScript ou côté serveur dans notre code Java, de façon déclarative ou de façon explicite. On peut également gérer la navigation de façon globale à notre application à partir de règles exprimées dans des descripteurs XML. JSF étant intégré à la plateforme Java EE, on peut récupérer également la gestion des contextes Java EE proposés par CDI. Et évidemment, quand on parle de contexte pour une application web, on parle de contexte de requête, de session, d'application, tous ces contextes qui existent déjà dans l'API Servlet depuis une vingtaine d'années et qui sont toujours supportés au niveau de CDI et exposés dans JSF. Notons que l'on a un contexte supplémentaire dans CDI également utilisable dans JSF, qui est le contexte de conversation. En fait, le contexte de conversation est intermédiaire dans sa portée entre le contexte de requête et le contexte de session. Pourquoi en a-t-on besoin? Tout simplement parce que les navigateurs, depuis de nombreuses années déjà, proposent ce que l'on appelle la navigation multi-onglet. On peut visiter un site web au travers de plusieurs onglets. Une session étant attachée à un cookie commun à un navigateur et donc à l'ensemble des onglets, ne va pas permettre de gérer suffisamment finement cette navigation multi-onglet. Pour pouvoir gérer cette navigation multi-onglet, on a besoin d'un contexte plus fin qui reste commun à un ensemble de pages visitées, mais propre à un onglet, et il s'agit du contexte conversation. Et enfin, JSF supporte évidemment l'internationalisation avec l'écriture des libellés de nos pages dans des fichiers rassemblés en bundle qui sont ensuite utilisés dans nos pages JSF par des clés de référence aux éléments de ces bundles. JSF est construit en partie sur le pattern MVC, modèle View Controller. Le modèle est bien évidemment notre modèle JPA. Alors, dans la pratique, ce peut être directement le modèle JPA ou un modèle intermédiaire, un modèle d'adaptation entre JPA et nos interfaces web. Le V, la View, il s'agit évidemment des pages de template JSF que nous allons voir, qui sont des pages XHTML. Et cette notion de contrôleur est en fait implémentée sous forme d'un backing bin. Qu'est-ce que ce backing bin dans le contexte d'une application JSF? Il s'agit d'un objet Java simple, un objet technique, qui est associé à une page ou à un composant graphique ou même à un ensemble de pages. Notre page, c'est un document XHTML. Ce document XHTML comporte des éléments qui sont scriptés, qui sont dynamiques et qui vont dialoguer avec le ou les backing bins associés à la page considérée. Voyons tout de suite un exemple et commençons à écrire un formulaire de création d'un musicien sous forme d'une page XHTML. Une page XHTML est une page HTML classique, donc elle comporte un élément racine HTML et un certain nombre de déclarations d'espaces de nom préfixés qui sont standards et qui vont nous permettre d'aller chercher les composants JSF standards dont nous avons besoin pour construire nos éléments graphiques, les éléments graphiques et dynamiques de notre page. Une page HTML est composée d'un élément head standard, tel que celui-ci sur cet exemple, et d'un élément body sur lequel nous allons maintenant zoomer. Dans le contexte de la création d'un musicien, nous avons besoin simplement d'un formulaire de création. Il s'agit donc de l'élément h2.form. Cet élément est associé à un espace de nom propre à JSF et il ne s'agit pas en fait d'un élément HTML standard, mais d'un composant JSF qui implémente le formulaire HTML que nous connaissons bien. Ici, ce formulaire est composé de trois éléments. Un premier élément qui est un champ textuel de saisie pour le nom de notre musicien. Un deuxième élément qui est également un champ textuel pour le type de musique. Et un troisième élément qui est le bouton de notre formulaire qui va nous permettre de soumettre les valeurs de ce formulaire à notre backing bin. Nos deux éléments de saisie textuelle sont composés d'une part d'un libellé sous forme d'un output label qui est également un composant JSF et d'un champ de saisie proprement dit sous forme d'un input text. Cet élément est également un composant standard JSF qui est un peu particulier au sens où sa valeur est exprimée sous forme d'une expression écrite en EL, Expression Language, qui est également une spécification Java EE. Cette expression commence par un dièse et entre accolade d'un élément de navigation à l'intérieur d'un bin Java. Cet élément de navigation commence par le nom de notre backing bin, ici musicien contrôleur, puis .musicien.name se référence à une propriété musicien de notre backing bin, propriété musicien qui elle-même doit porter une propriété name. Cela permet de relier la valeur du contenu textuel de cet élément de saisie au champ name du musicien qui se trouve dans notre backing bin. De sorte que lorsque l'on va soumettre ce formulaire à notre backing bin, l'objet musicien de ce formulaire aura ses champs automatiquement remplis avec les valeurs saisies dans le formulaire. De même, notons que le champ action de notre command button référence explicitement une méthode de notre backing bin, en l'occurrence la méthode create. Le fait de cliquer sur le bouton create de ce formulaire va invoquer automatiquement la méthode create de notre backing bin. Examinons à présent le code de notre backing bin. Il s'agit en fait d'un bin Java tout à fait standard. Il s'appelle en l'occurrence musicien contrôleur. Il doit être annoté avec la notation named à laquelle on passe en paramètre le nom de ce backing bin, donc la chaîne de caractères par laquelle ce backing bin sera désigné dans nos templates XHTML. Dans le cas qui nous intéresse ici, on aurait pu omettre ce nom étant donné que ce backing bin va avoir un nom par défaut qui est précisément le nom de la classe avec le premier caractère en minuscule. On crée à l'intérieur de cette classe un champ musicien avec son getter et son setter, ce qui va donc créer une propriété dans ce bin Java, propriété que l'on référence dans notre page XHTML par le .musicien. Ce musicien porte lui-même une propriété name, ce qui nous permet d'écrire .musicien.name dans notre template XHTML. Et enfin, pour compléter le tout, on a besoin de créer une méthode create qui va être invoquée automatiquement lorsque l'on va cliquer sur le bouton OK de notre formulaire. Ce backing bin est un bin standard Java EE. Il est géré par CDI, notre injecteur de dépendance. Donc on peut ajouter des éléments automatiquement injectés à l'intérieur de ce backing bin. Comme par exemple notre JB, private musicien EJB, musicien EJB, annoté par @EJB. Ce qui nous permet d'avoir une méthode create particulièrement simple. En fait, notre méthode create va simplement passer notre objet musicien lui-même automatiquement rempli avec les champs du formulaire à cet EJB. Dernier point sur ce backing bin, la façon dont JSF gère les backing bins, d'une façon générale, impose que ces bins soient sérialisables. Qu'est-ce que cela signifie ? Techniquement, cela signifie que nos backing bins doivent implémenter l'interface serializable. L'implémentation de cette interface ne présente en fait aucune contrainte, étant donné que c'est une interface qui est juste un tag qui n'expose aucune méthode. Si l'on veut éviter d'avoir un warning à la compilation, il faut rajouter ce champ technique que toutes les classes sérialisables en Java doivent avoir, Serial Version UID, de type private, static, final et long. Ici, on lui donne la valeur 1, puisque cette valeur, en fait, ne sera pas réellement utilisée dans notre application. Deuxième élément de notre tétralogie crude sur laquelle nous travaillons, la grille d'affichage de l'ensemble de nos musiciens. On peut effectivement imaginer une page XHTML qui va afficher l'ensemble des objets musiciens de notre table. Les grilles en JSF sont modélisées par le composant DataTable. Comment fonctionne ce composant? Il a en fait besoin de deux éléments techniques qui doivent être disponibles au niveau de notre backing bin. Tout d'abord, il doit être capable de récupérer une propriété qui va lui fournir la liste des objets à afficher. Cette propriété est précisée dans l'attribut value de l'élément DataTable. Et il a également besoin d'une variable intermédiaire qui va lui permettre d'enregistrer la ligne courante, en quelque sorte la ligne, dans l'itération sur les éléments de nos musiciens. Dans le cas qui nous intéresse, cet objet line sera donc de type musicien. La grille que nous avons ici comporte deux sous-éléments qui sont en fait deux colonnes. Chaque colonne est construite sur le même pattern. Elle comporte d'abord un élément de type facette. L'attribut name de cet élément doit avoir la valeur header. Et le contenu textuel de cet élément est tout simplement le nom de la colonne que nous sommes en train de créer. Le contenu de la colonne pour chaque ligne est ici spécifié en tant qu'élément textuel, output text, et là pour valeur line.name, c'est-à-dire le champ nom de l'objet musicien courant de notre itération. La deuxième colonne est construite exactement sur le même modèle et va nous permettre d'afficher le type de musique joué par ce musicien. Comme tous les objets gérés automatiquement par la plateforme Java EE, notre backing bin possède un cycle de vie. Ce cycle de vie est géré par le framework. Ça n'est pas nous qui instancions ce backing bin. Il est instancié automatiquement par Java EE lorsque l'on fait une requête sur une page XHTML qui l'a en référence. En fait, notre backing bin va être utilisé dans plusieurs contextes. On l'a déjà utilisé dans deux contextes, le contexte de création d'un musicien et le contexte d'affichage de l'ensemble des musiciens de notre table, donc dans le contexte create et dans le contexte retrieve. Pour la troisième étape, c'est-à-dire update de notre tétralogie crude, on édite un musicien, on peut encore utiliser le même backing bin pour ce faire. La différence est que cette fois, plutôt que de remplir un objet musicien vide avec les valeurs saisies dans un formulaire, on veut partir d'un objet musicien qui existe, remplir les valeurs de notre formulaire, éventuellement les modifier, ça c'est le travail de l'utilisateur, et ensuite soumettre ces modifications à notre backing bin. Donc ce backing bin doit s'initialiser avec en paramètre une valeur de clé primaire, la clé primaire de notre musicien. C'est là que la notion de contexte d'un bin CDI et notamment de contexte de conversation va nous venir en aide. Comme nous l'avons dit, la conversation est un contexte particulier et que nous allons devoir gérer partiellement à la main. Alors que le framework JSF sait exactement quand le contexte de requête démarre et quand il s'arrête, et de même pour le contexte de session, il sait quand démarrer un contexte de session et éventuellement quand l'arrêter, le contexte de conversation doit être entièrement délimité à la main par notre application elle-même. On doit démarrer et arrêter une conversation de façon explicite dans notre code. Rassurons-nous, les choses sont extrêmement simples. On a en fait juste besoin d'annoter notre backing bin à l'aide de la notation conversation scoped, qui est une annotation CDI. Afin de délimiter le démarrage et la fin d'une conversation, on a besoin également de récupérer l'objet conversation lui-même, qui modélise cette conversation au niveau de JSF par injection de dépendance. C'est cet objet de type conversation que l'on injecte dans ce bin. Une fois que ce point est réglé, on va utiliser les callbacks qui sont définis par CDI. Entre le moment où notre objet est créé par CDI et où ses champs injectés sont instanciés également par CDI, et le moment où cet objet devient disponible pour JSF pour qu'il l'utilise en tant que backing bin, on a un callback post-construct qui, posé sous forme d'une annotation sur une méthode de notre backing bin, va déclencher l'exécution de cette méthode. Que doit-on faire dans cette méthode ? Eh bien, tout d'abord, récupérer l'éventuel paramètre ID qui va nous arriver par la requête. C'est l'objet du code technique qui se trouve ici. Convertir ce champ, qui est une chaîne de caractères, en un champ numérique, puisque nos clés primaires sont des longues. Si ce champ est nul, cela signifie que nous sommes en création, donc nous allons créer une nouvelle instance de musicien vide dont les champs seront remplis par les valeurs du formulaire, et cette opération est gérée automatiquement pour nous par JSF. Si notre musicien n'est pas nul, cela signifie qu'il faut aller chercher un musicien en base de données, ce que nous faisons ici. Cette fois, les champs de notre musicien ne seront pas nuls et notre formulaire va les afficher puisque la liaison entre le backing bin et le formulaire XHTML est bidirectionnelle. Et une fois que nous avons instancié notre objet musicien, soit nouvel objet, soit par lecture en base, nous pouvons démarrer notre conversation de façon à conserver cet objet jusqu'à sa création en base ou sa mise à jour dans la base de données. Dans le contexte de création, on reprend le code de la méthode create. Une fois que notre musicien est enregistré en base, la conversation est terminée, donc on appelle la méthode end de l'objet conversation. Dans la méthode edit ou update, de la même façon, une fois que notre instance de musicien a été utilisée et passée à notre JB pour mettre à jour le musicien qui a cette clé primaire, nous mettons également un terme à la conversation en invoquant cette méthode end de l'objet conversation. Notons ici un élément de navigation dont nous n'avons pas parlé pour le moment. La méthode create que nous avions écrite ne retournait rien, son type de retour était void, et par défaut, lorsque JSF exécute une méthode dont le retour est void, il va rafraîchir la page courante avec les nouvelles valeurs. Cela va nous permettre de créer des musiciens à la volée, et une fois qu'un musicien sera créé, le formulaire sera toujours présenté devant nous au niveau de l'interface, et donc on pourra créer un nouveau musicien. Pour l'édition d'un musicien, on choisit un mode de navigation différent. Cette fois-ci, notre méthode edit retourne une chaîne de caractères, et cette chaîne de caractères est le nom de la page liste-musicien.xhtml que JSF va afficher à l'issue de l'édition d'un musicien. Il ne reste plus qu'une seule étape de notre tétralogie crude, qui est l'étape d'effacement. L'étape d'effacement d'un musicien se fait de la même façon que la mise à jour, par appel de la méthode qui convient de l'EJB et par appel de la méthode end de la conversation. De la même façon que pour la méthode de mise à jour, on choisit après l'effacement d'un musicien d'afficher la grille d'affichage de nos musiciens. Dernier point de la création de notre application Java EE, la création d'une interface web pour gérer notre base de musiciens. De quoi une application JSF est-elle constituée ? On a besoin, comme à l'habitude, d'un certain nombre d'éléments de configuration. Le premier de ces éléments se trouve dans le descripteur de notre application web, celui-là que nous n'avions pas créé par défaut puisque nous n'avions rien à mettre dedans et que nous créons à présent, étant donné que nous avons besoin d'y mettre des informations. Essentiellement, ce descripteur web.xml doit contenir ces deux éléments. Le premier indique la servlet utilisée par JSF pour aiguiller les différentes requêtes qui arrivent vers les différentes ressources qui sont disponibles. Et cet élément servlet mapping qui précise que nos pages JSF portent l'extension .xhtml. Examinons à présent notre première page JSF index.xhtml qui sera chargée par défaut si l'on fait une requête sur la racine de notre application. Les pages JSF sont toutes composées de la même façon. Elles ont besoin d'un certain nombre d'espaces de noms définis pour pouvoir accéder aux éléments XML correspondants. Ces trois espaces de noms sont F, H et UI, standardisés dans la spécification JSF. À l'intérieur de l'élément body, on retrouve classiquement l'utilisation d'un template. Ici, ce template est écrit dans un fichier layout.xhtml que nous allons examiner. Et la composition de ce template utilise deux variables. La première, title, qui va avoir comme valeur par défaut Create a Musician, qui sera effectivement surchargé dans les différentes pages de notre application. Et une deuxième variable, body, qui par défaut comporte juste la chaîne de caractères bonjour. Allons chercher le fichier layout.xhtml. Ce fichier est un peu plus compliqué que notre fichier index.xhtml et nous avons rajouté dedans des éléments techniques qui vont nous permettre d'utiliser Bootstrap 3 en l'occurrence. Bootstrap est une bibliothèque CSS et JavaScript qui permettent de faire des interfaces un peu jolies avec de la mise en page et des décorations. On va donc pouvoir sortir de la décoration par défaut des pages JSF grâce à Bootstrap. Bootstrap précise que la variable titre va être insérée à cet endroit dans l'élément title de l'élément head, ce qui est bien ce à quoi on s'attend. L'élément body qui se trouve ici est composé de trois sous-éléments. Une première div qui est en fait une barre de navigation Bootstrap qui expose trois liens. Un lien vers la page Create Musician de notre application. Un lien vers la page List Musician de notre application. Et un lien vers la racine de notre application. Le deuxième élément est l'insertion de la variable body, qu'évidemment ce layout ne définit pas. Ce sont nos pages Create Musician et List Musician qui vont définir cet élément body. Et le troisième élément, une deuxième div qui comporte un pied de page avec une mention de copyright pour notre application. Allons examiner à présent notre page createMusician.xhtml. Cette page createMusician est donc construite sur l'utilisation de ce layout layout.xhtml. Elle donne une valeur à la variable title qui est createMusician et une valeur à la variable body qui est cet élément qui se trouve ici. Cet élément est composé d'une div Bootstrap pour la mise en forme et d'un formulaire JSF qui se compose lui-même de trois éléments. Un premier élément input text, un deuxième élément input text et un troisième élément qui est un bouton de commande. Ces deux éléments input text sont reliés à l'aide d'une syntaxe particulière à ce que l'on appelle en JSF un backing bin. Ce backing bin est référencé ici par musicien contrôleur et ce champ va être associé au champ name d'un champ musicien à l'intérieur de ce backing bin. Notre deuxième champ de saisie textuelle s'intéresse, lui, au champ music type de notre champ musicien. Enfin, le bouton de commande va invoquer automatiquement la méthode create de ce backing bin. Nos pages JSF étant ainsi créées, on peut s'intéresser à ce backing bin, cet objet musicien-contrôleur qui pour le moment n'existe pas. Créons donc une classe musicien-contrôleur. Rangeons-la dans un package JSF. Un backing bin est en fait une classe Java tout à fait standard qui va porter un certain nombre d'annotations qui vont faire que JSF va la reconnaître et va pouvoir l'utiliser pour l'associer aux pages XHTML que nous avons créées. L'annotation que nous devons poser sur ce backing bin est l'annotation named, à laquelle on passe le nom de ce backing bin, musicien, contrôleur. Ce nom doit bien sûr correspondre aux références que l'on a à l'intérieur de notre page JSF ici. À l'intérieur de ce backing bin, on doit avoir un champ musicien puisqu'il est lui-même référencé à l'intérieur de nos pages JSF et ce champ doit être associé à une paire de getter setter de sorte que JSF puisse pouvoir y accéder. Une particularité de ce backing bin est qu'il doit nécessairement être sérialisable. Le caractère sérialisable d'une classe n'impose aucune contrainte sur cette classe, si ce n'est que tous les éléments dont dépend cette classe doivent être eux-mêmes sérialisables. Ce qui signifie que cette classe musicien doit également être sérialisable. Et donc, on peut déclarer le caractère sérialisable de cette classe directement auprès de sa classe abstraite, de façon à ce que cette propriété soit automatiquement héritée par l'ensemble des classes du modèle. Le compilateur Java nous donne un warning. Effectivement, une classe sérialisable en Java doit posséder un champ particulier nommé SerialVersionUID. Eclipse est là pour nous aider en nous générant ce champ à la bonne valeur automatiquement pour nous. Et il en va de même pour musicien-contrôleur qui doit également posséder un SerialVersionUID. Notre backing bin possède donc bien un champ musicien. Il doit également posséder une méthode create qui va être invoquée lorsque l'on va cliquer sur ce bouton créer. Créons donc cette méthode create, public void create. Le rôle de cette méthode va être d'enregistrer le musicien qui aura été saisi dans le formulaire directement dans la base de données. La façon normale de créer cette fonctionnalité est d'invoquer la méthode create de l'EJB musicien service. La magie de ces backing bins, c'est qu'ils sont gérés par l'injecteur de dépendance de Java E, CDI, donc on peut récupérer automatiquement une référence sur cet EJB par injection de dépendance. Une fois que l'on a cet EJB, il suffit de passer le musicien qui a été créé lors de la création du formulaire en paramètre de la méthode createMusicien. En l'état, notre backing bin est presque fonctionnel. Il nous reste toutefois un problème à régler, qui est le problème de la création et du cycle de vie de cet objet musicien. En fait, notre objet musician controller, tel qu'il est déclaré, ne crée pas de lui-même cet objet musicien, et d'autre part, il n'est pas capable de conserver cet objet musicien d'une requête à l'autre. Alors, pour des raisons qui ont leur justification dans la façon dont le cycle de vie des backing bins est géré à l'intérieur de JSF, et nous n'allons pas rentrer dans ces détails. La bonne façon de faire est d'attacher ce contrôleur à un contexte CDI reconnu par JSF, et nous n'allons pas rentrer dans ces détails, mais le contexte auquel il faut attacher ce bin est le contexte de la conversation. Il s'agit d'un contexte CDI, donc géré par CDI et reconnu par JSF. Ce contexte est un contexte qui est intermédiaire entre le contexte de requête et le contexte de session. Il est un peu contraignant à gérer, mais présente l'avantage d'être compatible avec une navigation multi-onglets supportée par l'ensemble des navigateurs actuellement. Il est contraignant au sens où c'est à nous, dans notre code, de délimiter les frontières d'une conversation. Et cela se fait en appelant la méthode begin et la méthode end d'un objet conversation que CDI peut nous donner par injection de dépendance. On crée un champ de type conversation dans notre backing bin. On va démarrer une nouvelle conversation à la création de ce backing bin. On va donc utiliser un callback sur la création de ce bin par CDI. Créons une méthode privée init que l'on va annoter avec l'annotation CDI postconstruct. Cette méthode sera donc appelée une fois ce bin créé, mais avant que ce bin ne soit utilisé par JSF. Et à l'intérieur de cette méthode init, on appelle conversation.begin. À quel moment notre conversation s'arrête-t-elle? Elle s'arrête une fois que nous avons créé notre musicien. Donc quand ce musicien est effectivement créé, on appelle la méthode end de notre conversation. Une fois que ce contexte est mis en place, à quel moment doit-on instancier notre objet musicien? Eh bien, on peut l'instancier une fois que la conversation est créée. Musicien égale new musicien. La magie de CDI et du contexte conversation vont faire que cette instance de musicien va être conservée entre le démarrage de la conversation et la fin de cette conversation, indépendamment du fait que ce laps de temps peut inclure plusieurs requêtes. Notre méthode create retourne void, donc ce comportement par défaut indique que le formulaire de saisie d'un musicien va être rafraîchi automatiquement dans notre navigateur, de façon à effacer les champs de ce formulaire automatiquement. Nous allons créer un nouveau musicien. Il ne s'agit pas vraiment de la création d'un nouveau musicien, mais plutôt de l'effacement des champs du musicien courant. Rafraîchissons à présent notre déploiement. Passons dans notre navigateur et allons chercher notre page Create Musicien. Commençons par regarder le contenu de notre base de données. Exécutons cette requête select sur notre base. Donc pour le moment, notre base est vide. Il n'y a pas de musicien dans notre table. Revenons dans le navigateur. Créons un premier musicien. Créer. Un second. Créer. Vérifions ce qui s'est passé en base de données. On a bien donc nos deux musiciens qui ont été créés via notre IHM. Intéressons-nous à présent à notre page liste musiciens qui va nous permettre d'afficher la liste des musiciens en base de données. Cette page liste de musiciens s'appuie également sur le template layout.xhtml. Elle définit la variable titre list of musicians. et la variable body comme étant cet élément-là. Tout comme notre formulaire de création de musicien, cette grille que nous allons afficher est insérée dans un div Bootstrap qui nous permet d'avoir la mise en page et les décorations Bootstrap. On utilise l'élément DataTable de JSF qui nous permet de créer des grilles d'affichage de façon simple. Cet élément DataTable prend au minimum deux attributs. Le premier attribut est un champ de notre backing bin musicien-contrôleur qui va nous donner l'ensemble des lignes à afficher dans cette grille. Le deuxième attribut var, qui prend ici la valeur line, va désigner le nom de la variable de la ligne courante au fur et à mesure que nous allons parcourir la liste de ces lignes. Le dernier attribut est un attribut bootstrap qui nous permet de particulariser l'affichage de la grille. Cette grille est composée de quatre éléments colonnes, le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Chacun de ces éléments colonnes est composé de la même façon, d'un premier sous-élément facette avec un attribut dont la valeur est header. Cet élément facette permet en fait de définir le nom de chacune des colonnes par un élément output label, qui est juste un élément textuel, de valeur ID pour la première colonne, nom pour la deuxième colonne, type de musique pour la troisième colonne et action pour la dernière colonne. Ensuite, le contenu de cette colonne pour chacune des lignes aura comme valeur line.id. Rappelons-nous que cette variable line est en fait de type musicien, donc on peut parfaitement accéder au champ des musiciens au travers de cette variable. Line.id va afficher la valeur de la clé primaire à l'intérieur d'un lien. Cet élément h2.link est un lien JSF qui va nous rediriger vers la page editmusicien.xhtml avec un paramètre dont le nom sera ID et la valeur de la clé primaire de ce musicien. La deuxième et la troisième colonne sont sur le même modèle et portent juste des valeurs textuelles, le nom du musicien d'une part et le type de musique joué par ce musicien. La dernière colonne est une colonne action. Cette colonne est censée nous permettre d'effacer un musicien. En invoquant la méthode delete du backing bin musicien-contrôleur et en lui passant en paramètre la ligne courante de la grille, c'est-à-dire le musicien lui-même. Nous avons donc deux choses à faire pour faire fonctionner cette grille. D'une part, créer cette page editmusicien.xhtml et lui permettre d'éditer le musicien dont on passe la clé primaire en paramètre, et d'autre part, créer la méthode deleteLine à l'intérieur du backing bin musicien-contrôleur. Commençons par la méthode delete de notre musicien-contrôleur. On a besoin donc de créer une méthode delete qui prend une ligne en paramètre, c'est-à-dire un musicien. Que va faire cette méthode delete? Eh bien, tout simplement, rediriger cette requête d'effacement vers le JB que nous avons déjà créé en lui passant le musicien en paramètre. Nous sommes dans le contexte de la page de liste. On peut donc mettre un terme à la conversation à l'issue de cette méthode. Examinons à présent notre page editmusicien.xhtml. Cette page ressemble en tout point à la page de création d'un musicien. Elle définit toujours une variable title qui prend cette fois-ci la valeur edit musicien et un élément body inséré dans une div bootstrap pour des raisons de décoration et qui définit un formulaire. Ce formulaire porte un premier champ caché
hidden, qui est la valeur de la clé primaire du musicien que nous sommes en train d'éditer. Effectivement, on ne souhaite pas que l'utilisateur puisse modifier la valeur de cette clé primaire, étant donné que on veut éditer ce musicien en particulier et pas un autre. Il porte ensuite trois éléments, un premier champ textuel pour le nom du musicien, un deuxième champ textuel pour le type de musique que joue ce musicien, et un bouton qui va permettre d'éditer ce musicien. Cette méthode edit sur le backing bin musicien contrôleur, il va donc nous falloir la créer. Retournons dans notre classe musicien contrôleur, classe de notre backing bin, pour créer cette méthode edit public void edit. Cette méthode ne prend pas de paramètres et elle va encore une fois rediriger cette requête vers notre JB, vers la méthode update musicien de notre JB et encore une fois mettre un terme à la conversation. À l'issue de cette méthode edit, on peut se poser alors la question de la navigation au sein de notre application. Est-ce que l'on souhaite, à l'issue de la méthode edit, rester sur le formulaire d'édition avec le même musicien, ou est-ce que l'on souhaite retourner à la grille de l'ensemble de nos musiciens? Si l'on souhaite retourner à cette grille, il faut dans ce cas retourner le nom de la page vers laquelle on veut se rediriger, en l'occurrence liste musicien.xhtml, et bien sûr changer la signature de la méthode en fonction. Il nous reste encore un point à régler par rapport à notre page liste musicien.xhtml. Cette page référence effectivement une variable lines dans notre musicien contrôleur, variable qu'il nous faut créer. En fait, cette variable n'a pas besoin d'être créée en tant que telle. En revanche, on a besoin d'un getter getLines qui va permettre à JSF d'aller lire la liste de nos musiciens. Il nous faut donc une méthode listMusicien getLines. Qu'est-ce que cette méthode va faire? Eh bien, une fois de plus, tout simplement, rediriger cette requête vers notre JB et la méthode getAllMusicien que nous avions écrite dans cette JB. De cette façon, notre grille pourra s'afficher en allant lire la propriété en lecture seule lines de notre backing bin. Déployons à présent notre application dans GlassFish. Allons voir ce qui se passe dans notre navigateur. Regardons notre liste de musiciens. On peut effacer Franz Schubert de notre liste et tenter d'éditer Eric Clapton. Là, on constate que notre formulaire est vide. Essayons d'expliquer ce problème et regardons ce qui se passe au niveau de notre backing bin et de notre page Edit Musicien. La page Edit Musicien, elle s'attend à avoir le musicien dont l'ID est passé en paramètre lors de cette requête. Si l'on regarde l'URL de requête, on a bien ID égale 301. Et rien au niveau de notre contrôleur de musicien, au niveau de notre backing bin, n'a été écrit pour récupérer la valeur de cet ID. JSF nous permet de récupérer la valeur de cet ID à l'aide d'un code dont le pattern est donné ici. Il faut récupérer la requête par cette chaîne d'appel facesContext, getCurrentInstance, getExternalContext, getRequest. Et une fois que l'on a une référence sur cette requête, on peut récupérer le paramètre ID sous forme d'une chaîne de caractères. On peut donc ensuite convertir cette chaîne de caractères en un long que l'on peut stocker dans un champ privé de notre backing bin. Que faire de cet objet long qui qui peut être nul d'ailleurs si aucun paramètre n'a été passé sur la requête. Eh bien, si ce long est nul, le comportement est celui que l'on avait écrit auparavant. Si ce long est non nul, cette fois-ci, le musicien que l'on va instancier n'est pas un objet vide, mais un musicien que l'on va récupérer de la base de données, par interrogation de notre JB. Qu'est-ce que l'on fait à l'issue de cette instanciation? Eh bien, on démarre notre conversation. Donc, ce démarrage de conversation peut avoir lieu à l'extérieur du ifs-then-else. Redéployons notre application. Cette fois-ci, si je demande à éditer Eric Clapton, j'ai bien les chants de ce musicien dans mon formulaire et je peux changer sa valeur pour Chuck Berry. J'aurai bien modification de ce chant. Ajoutons une dernière fonctionnalité à notre grille de musiciens. Liste musiciens qui se trouve ici. Et à côté du bouton effacer, rajoutons un lien vers notre service REST de façon à pouvoir examiner le document XML associé au musicien qui se trouve sur cette ligne. Redéployons notre application. Retournons dans notre navigateur. Rafraîchissons notre liste. Cette fois-ci, on a bien ce lien XML qui arrive. Et donc, on peut regarder automatiquement le résultat d'une requête REST sur notre service REST.